deux pierres. Trois. Un à sept.
Bien aimé, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres.
Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de raillerie. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau.
Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais
voilà, c'est bon, pardon, oui, jusqu'au 7. Jusqu'à 7, merci.
17,
non, non, 7, ouais, 17, on finissait le chapitre, ouais. Mais c'est pas inutile, hein. On peut toujours lire à l'avance aussi. Alors, on avait déjà lu ce passage la dernière fois, mais on ne l'avait pas terminé. Hein. Donc, petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on se souvient, on est toujours dans cet épître qui porte principalement sur les faux docteurs. Et puis, ce troisième chapitre, je vous rappelle la structure de ce chapitre. Donc, le premier point, négation de sa venue, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on va finir de voir ce soir par rapport aux faux docteurs hein, qui nient la venue du Seigneur. Deuxième point dans ce chapitre et que nous verrons par la suite, c'est les versets 8 à 10, assurance de sa venue. Troisième point, vivre pour sa venue, c'est les versets 11 à 18, la première partie du chapitre 18, du verset 18, et simplement la bénédiction finale à la fin du verset 18. Hein. Donc, on avait vu que un des points sur lesquels on pouvait remarquer, un point parmi d'autres, hein, c'est que les faux docteurs viennent facilement en niant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4, en disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils reconnaissent quelque part qu'il y a un Dieu créateur. C'est un peu un Dieu horloger. Il a créé les choses au départ. Plus ou moins, voilà, ils ont une théologie plus ou moins par rapport à ça. Et puis après, Dieu s'est retiré et Dieu ne va pas revenir. Tout est maintenant entre les mains des hommes. Et c'est vrai que des fois, on a ce genre de théologie. Malheureusement, on peut entendre ce genre de docteur. Hein, vous annoncez que tout est entre les mains de l'homme. C'est la responsabilité de l'homme de faire aujourd'hui que cette société puisse être meilleure. Et puis, on en oublie carrément le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est triste, hein, mais on peut se trouver des fois, malheureusement, face à ce genre d'hérésie qui nie la venue de Jésus. Donc, dès le moment où on a une église qui rappelle que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ben, on est dans une église apostolique, c'est-à-dire qui est fondée sur l'enseignement des apôtres. Pierre rappelait l'importance d'avoir une intelligence saine afin que vous souveniez des choses, c'est le verset 2, annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Pour avoir une saine intelligence, ben, il faut que notre foi soit basée sur les prophètes, c'est-à-dire les choses, on pourrait résumer comme ça, annoncées par le passé, sur le Seigneur, sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et sur les apôtres, sur les enseignements des apôtres du Nouveau Testament. Hein? On n'a pas besoin d'un nouvel apôtre qui nous enseignerait. Les apôtres et la parole de Dieu a été complète. Et les apôtres, c'est bien sûr les apôtres du Nouveau Testament, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. On ne va pas réécrire des compléments du Nouveau Testament, parce que, comme vous le savez, si on fait ça, on est tout de suite dans l'hérésie. Une église qui est apostolique, comme je vous avais déjà partagé une fois, c'est avant tout une église qui se réfère aux enseignements des premiers apôtres. Amen. Hein? C'est basique, mais des fois, on oublie cette simplicité. Une église apostolique, ce n'est pas une dénomination. Oui, bon, il y en a une hein, qui s'appelle l'église apostolique en Suisse.
Même Néo.
Alors là, bon, là, on avait vu hein, que c'était une secte.
C'est là qu'il y a les apôtres qui pardonnent les péchés.
Ah voilà, ouais, tu nous avais partagé.
J'avais des clients, si vous mourrez en temps, vos péchés ne sont pas pardonnés. Mm. Ah non, mais c'est seulement les apôtres. Je dis, ben, vous êtes bien à plaindre. S'il y a un apôtre qui fait le tour du monde pour aller pardonner les péchés, toi, c'est boulot.
Ça va être compliqué. Hein. Là, il a intérêt à avoir un judge qui va
venir. Ouais, ouais. Non, mais c'est ce qu'ils disent, les apostoliques. J'avais des clients.
Alors, une saine foi, elle est basée sur les écrits entiers de l'Ancien et du Nouveau Testament, hein, sur les prophètes, on pourrait dire l'Ancien Testament, sur les paroles de Jésus, les évangiles, et sur les apôtres, toutes les lettres qui suivent les évangiles. Et ensuite, les versets 5 à 7 qu'on vient de lire. Un trait d'un faux docteur, c'est quelqu'un qui va nier que Dieu va juger ce monde. Hein, et que cette terre est réservée pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors typiquement, on peut citer les témoins de Jéhovah parce qu'eux nient que ce monde un jour va passer par le feu. Ils croient dans le royaume de Dieu, mais c'est un royaume de Dieu éternel sur cette terre. Et ils mettent de côté qu'un jour, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si vous allez une fois sur ce sujet-là avec un témoin de Jéhovah, parce qu'il vous apostrophe dans la rue ou je ne sais pas quoi, il vient sonner à votre porte, voilà. Soyez pas surpris qu'il va partir dans ce genre d'enseignement et puis il n'en changera pas. Tarabot prendra un verset ici, il est tellement endoctriné par ses faux enseignants qu'il ne changera malheureusement pas de ligne. Ou alors, c'est vraiment que Dieu travaille dans son cœur et puis qu'il a deux doigts de sortir de ce milieu-là.
Verset en question là, par rapport au témoin de Jéhovah, est-ce qu'il est relaté dans leur Bible ou bien est-ce que c'est une interprétation qu'ils donnent sur la base d'une traduction de la Bible qui serait comme la nôtre, ou juste, disons.
Alors comme ça, moi je peux pas te répondre, mais à la maison j'ai une Bible des témoins là de Jéhovah. On avait, c'est du Nouveau Monde.
Ah, du Nouveau Monde.
Alors si vous voyez Bible Nouveau Monde, ouvrez la porte.
Hein. Surtout, voilà. Surtout ils reconnaissent pas Jésus-Christ comme Dieu lui-même.
C'est ça.
Et quand tu leur lis, tu leur lis Jean 5:20, donnez-moi l'explication. Ils peuvent pas te la donner. Alors je vais aller demander à plus haut, puis tu ne les vois plus.
Et puis voilà, ils ont frelaté leur traduction pour que ça corresponde à leur
doctrine. Il y a des versets qui sont frelatés.
Mmh. Oui, clairement. Ouais. Alors les témoins de Jéhovah, ils ne reconnaissent pas qu'un jour ce monde va passer par le feu. Dieu, il n'est pas comme ça. Bref.
Mais il croit quand même à un nouveau monde.
Donc, oui, c'est toute une... Oui, alors ils vont prêcher le royaume, mais pour eux, ce n'est pas un temps qui est fini, le royaume. Ils ne prêchent pas la suite.
Il y a la question des 144 000.
Ouais. Non, puis il y a vraiment... Ça ressemble à du christianisme, mais quand tu vas un peu en profondeur, tu réalises que ce n'est pas du christianisme. C'est une secte qui, en effet, qui nie la Trinité, qui est dans plein d'interdits. Ils vont prendre la Sainte Seine. Alors ça, je ne connais pas suffisamment, mais je crois que c'est qu'une fois par année. Et puis, il n'y a que les saints des saints qui participent. Hein, mm-hmm. C'est vraiment un bracadabre hein, sur plein de points. Et puis ensuite, c'est une ligne générale qui est toute donnée par la tour de garde. Et tout le monde suit les enseignements dans le monde entier. Ils vont suivre le même protocole d'enseignement durant toute l'année. Et puis après, ça fait que tout le monde pense de la même manière. Et tout le monde est doctriné de la même manière. Et je crois qu'ils se marient aussi contre eux.
Ouais. On avait dans la maison, je trouve, justement.
Alors, c'est étonnant, hein, mais on voit bien que ce que dénonçait l'apôtre Pierre, c'est encore complètement d'actualité, parce que le diable n'est pas très malin, et il revient avec les mêmes séductions.
C'est l'homme qui se fait avoir chaque fois.
Donc, il y avait déjà du temps de Pierre, des quelque part, des gens qui, comment dire ça, j'ai pas la terminologie, mais qui annonçaient la venue des témoins de Jéhovah, parce qu'il y avait déjà la même doctrine, hein, du temps de l'apôtre Pierre, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors voilà, bon, nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Bon, petite parenthèse, Jéhovah, c'est juste une question de vocalise par rapport au nom de l'éternel Yahweh. Hein, nous, on le prononce plutôt Yahweh. C'est quatre consonnes en hébreu. Et puis, les voyelles, après, suivant, elles vont être données différemment. C'est pour ça qu'on pourra avoir le nom de Jéhovah ou Jéhovah. C'est pas faux comme nom. Hein. C'est le nom de Dieu. Souvent, nous, ce sera écrit dans nos Bibles, Dieu. C'est le nom que les Juifs ne prononcent pas parce que pour eux, il est trop saint. Donc, c'est pas un faux nom, sinon on dit Jéhovah. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, ça a une connotation malheureusement négative. C'est tiré de l'hébreu.
C'est ce qu'il te dit, justement. Si vous l'appelez Dieu, il y a beaucoup de dieux, tandis que Jéhovah, c'est plus précis.
Voilà.
C'est ce qu'on avait dit.
J'y vais. Mais pour eux, si tu pries au nom de Jéhovah, ils ne vont pas prier au nom de Jésus.
Non.
Ils vont prier au nom de Jéhovah, et puis eux, ils ont eu la révélation du vrai nom de Dieu. Voilà.
Alors, c'est un peu pélu, quoi.
Alors que Dieu a plein de noms. Hein, il n'en a pas qu'un. Bon.
Il y en a 12. Oh, il y en a beaucoup plus.
Ouais.
2 ou 3, ça.
Ah oui?
Ouais.
Je pourrais, ouais. Il y en a de quoi pas se rater tous, hein, en effet. Alors, on peut continuer, parce que nous sommes assurés de sa venue. Amen. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Alors, on va lire les versets 8 à 10, s'il y a quelqu'un qui peut lire ça.
Alors, il faut juste quand même mentionner juste une petite chose, c'est que du temps de Noé, donc le jugement de Dieu est venu par l'eau, et puis la prochaine venue du Seigneur, ça sera le jugement de la terre par le feu. Voilà, juste une petite parenthèse.
La destruction.
Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Tu peux tout lire jusqu'au verset 10.
D'accord. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
Voilà, mais enfin, il ne restera rien. Hein, ce n'est pas juste un petit feu parce qu'on a froid. Non, c'est un feu qui va tout dissoudre. Merci pour la lecture. Donc, ce qu'on ne doit pas ignorer, nous dit l'apôtre Pierre, c'est que un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et nous connaissons bien sûr ce passage, hein. Et ça me faisait penser à Matthieu 17 verset 23. Je vous lis ça, simplement ça. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Et le Seigneur, en effet, sa résurrection est venue au troisième jour. Et il y a aussi un autre passage dans l'Ancien Testament, Osée 6, verset 2, où il nous est parlé de 2 jours et d'un troisième jour. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera, ou bien on pourrait traduire même, il nous rétablira et nous vivrons devant lui. Ça, c'est Osée 6, verset 2. Donc, 1000 ans étant comme un jour, alors moi je ne suis pas attaché à une interprétation comme celle que je vais vous donner, mais c'est quand même interpellant de dire que aujourd'hui on est dans le temps de la grâce. Et puis, peut-être ce temps de la grâce va durer 2 jours devant le Seigneur, c'est-à-dire 1000 ans, on ne sait pas. Hein? Et que le troisième jour, il nous rétablira, il nous relèvera. Et ce troisième jour, ce serait en fait le jour de sa venue avec l'établissement de son royaume qui va durer un jour, qui va durer 1000 ans. Hein? Après, il y a des gens qui vont dans des interprétations très, très, très poussées là-dedans. Moi, je ne suis pas forcément dans cette tendance. Mais je pense qu'il y a un mystère. De toute façon, on ne peut pas calculer le jour du retour du Seigneur. Mais peut-être on s'en approche à grands pas parce que ça fait bientôt 2 jours. Ça fait bientôt 2 jours que le Seigneur Jésus-Christ, il est remonté à la droite du Père. Et le temps s'égrène. Hein. Devant Dieu, il y a un temps qui n'est pas à notre disposition, sur lequel on n'a aucun pouvoir. Mais peut-être que nous sommes la dernière génération, qui sait. De toute façon, Dieu, il a autorité sur toute chose. Le moment où il décidera que ce sera l'heure, il reviendra. Hein? Ça ne fait aucun doute. Après, on pourra commenter. Hein? Je vous lis juste Osée 6, verset 3, donc c'est la suite. De ce Osée 6, verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous rétablira, hein, ou il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Donc, pour moi, il y a quand même un petit avant-goût du millénium, là. Une petite promesse du millénium, ici. Hein. Nous vivrons devant lui, il nous relèvera au troisième jour. Et Osée 6, verset 3, qui dit ceci, « Connaissons, cherchons à connaître la... » À connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Voilà, ça c'est notre responsabilité aujourd'hui. C'est encore, hein, merci au prophète Osée, de connaître, de chercher à connaître l'Éternel, parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. En effet, Jésus-Christ va revenir. C'était annoncé déjà dans Osée 6, verset 3, et nous en avons une pleine foi. Par rapport à son retour et par rapport au rétablissement de son royaume ici sur cette terre. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Si on voit au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. C'est étonnant. Dieu use de patience, pas tellement par rapport au monde en premier, oui, alors certes, bien sûr, mais avant tout, envers chacun d'entre nous. C'est quand même quelque part magnifique, parce que c'est vrai qu'on a tous envie de voir le Seigneur Jésus-Christ revenir aujourd'hui, mais Dieu, il a encore des choses pour nous sur cette terre, Dieu continue à travailler nos vies, Dieu veut encore... libérer ses bénédictions sur chacun d'entre nous, libérer ses promesses. Donc, Dieu use de patience en premier envers vous, hein, il nous a dit là dans ce passage, donc envers chacun d'entre nous. Ne voulant, donc je relis, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors voilà, deuxième partie de ce verset, en effet, je pense qu'il est plus adressé au monde qui a besoin de cette repentance et qui a besoin de venir auprès de notre Dieu. Voilà, alors je ne sais pas si
alors cette patience, justement, ce que je pourrais relever là-dessus, il use de patience envers nous. Voulant qu'aucun ne périsse. Mais bon, la patience, à un moment donné, elle va avoir des limites. Parce que comme on connaît l'être humain, on peut lui dire tout ce qu'on veut, et puis il ne veut pas se repentir, il continue dans ses voies malsaines. À un moment donné, il va prendre une décision. Même si c'est mentionné qu'il use de patience envers nous. À un moment donné, ça ne peut pas aller à d'éternum, à moins que c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Je sais pas.
Ah non, bien sûr,
je
ça
pose
peut.
La question,
non,
hein.
Mais bien sûr, non, à un moment donné, ça va, la patience va s'arrêter. Hein.
Oui, mais c'est quand même, ça nous montre quand même que cette patience de Dieu, elle a, effectivement, qu'elle a des limites, mais elle est pour le bien de l'homme. Pour autant que la plupart, qui veut que la plupart des hommes se convertissent. À Donc, à nous aussi, en tant que chrétiens, une responsabilité importante. D'être dans le service du Seigneur.
Le témoignage.
Pour le témoignage, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais d'être vigilant aussi à ce point de vue-là. On a aussi une responsabilité, nous les chrétiens, dans cette patience de Dieu.
Tout à fait. Mais à un moment donné, on sera confronté à une réalité, qu'on le veuille ou pas. Dieu lui-même prendra la décision, puisque c'est lui qui prendra la décision.
Tout à fait.
À un moment donné, il va dire jusqu'à là et pas au-delà. Comme quand il y a eu le déluge. Quand il y a eu le déluge, l'arche ne s'est pas construite en un jour, hein, on est bien d'accord, hein, ça a mis hein, du temps et du temps. Et il y avait des gens qui raillaient autour, qui se mettaient à rire, regarde, qu'est-ce qu'ils font avec eux. Ils vont chercher du goudron pour essayer d'enduire leur propre part, tout ça. Mais à un moment donné, c'est arrivé. Puis c'est Dieu qui a fermé la porte pour Noé de l'arche.
Donc un jour et ça montre aussi la persévérance de Noé et de sa famille qui est au-delà de des critiques et puis des niaiseries
ils ont persévéré
et puis des moqueries ils ont persévéré et pour nous c'est un exemple frappant qu'on va arriver à ça maintenant on est en train d'ironiser justement tous ceux qui ne sont pas dans la pensée progressiste et diversitaire et on se moque des gens qui sont contre cette pensée unique, cette politiquement correcte. Et nous, les chrétiens, on est en première ligne. On est des dissidents et on devra l'être. Donc ça veut dire garder notre intégrité dans la parole de Dieu, et puis même si on se fait moquer. Et ça, c'est un bon exemple.
Et il ne faut pas oublier, Noé, pendant une centaine d'années, construit son arche dans une région où il n'y a pas d'eau. Alors c'est facile de se moquer de cet homme. Il est complètement viré, celui-là. Comment il peut faire voguer un bateau? Il faut de l'eau, mais il n'y a pas d'eau ici. Oui, c'est sur une montagne et tout ça.
Mais il y en a eu, comme à Dombresson, tout à coup.
Voilà, c'est ça. Ah, c'est les voitures qui voguaient, là.
Et moi, j'avais le verset du jour aujourd'hui qui disait « Et tu ne seras pas submergé par les eaux. » Un des versets qu'il y a dans la Bible. Mais ouais, bon, c'est par rapport à ce que vous dites hein, aussi, c'est...
Eh oui. Non, moi, j'admire Noé, vraiment. De construire, Dieu m'a dit, alors il le fait, il a une foi extraordinaire dans un endroit où il n'y a pas d'eau, c'est que du terrain et tout, et puis où est-ce qu'il est? Un immense bateau comme ça, et tous les gens qui se moquent de lui, qui le traitent de fou, etc., il a perdu la tête.
C'est de nouveau la persévérance dont le frère a parlé dimanche, hein, que nous devons persévérer.
Oui, il faut persévérer, c'est sûr. Envers et contre
envers,
tout.
Voilà, j'allais dire.
C'est non, hein, persévérer pour le centre. Tout, ouais.
Mais oui, hein.
C'est qu'il n'a pas baissé de force, de régime.
Non, il a été jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, quand on entend tout ce qui se passe, des fois on se dit, mais comment je vais pouvoir prendre position dans telle ou telle circonstance? Parce que maintenant, les homosexuels et puis les autres, ils vous agressent carrément. Ouais. Eux, ils veulent la liberté. Mais alors, nous, on n'a pas la liberté de penser. On doit penser comme eux.
Oui, parce que la pensée, justement, je suis en train de dire des livres là-dessus, c'est qu'ils veulent. C'est en fait l'ancien marxisme qui est sous-jacent avec mai 68, etc., qui est là derrière. Et puis, ils veulent promulguer les minorités et écraser la majorité, justement. La majorité bien pensante, parce qu'ils disent que c'est l'ancien monde. Ils veulent un nouveau monde. Et puis ce nouveau monde, c'est mettre en valeur justement toutes ces minorités et en psychiatrisant les gens qui ne sont pas d'accord avec eux en disant que t'es xénophobe, c'est la phobie, t'as la phobie de ça, t'as la phobie de ci, etc., etc., le sexisme et tout ça. Puis on va discriminer les gens qui pensent toujours juste comme les chrétiens, justement en ironisant, en disant que vous êtes complètement désattardés, que vous êtes des gens... que vous êtes resté croché dans un truc, dans l'ancien monde, etc. Ouais. Alors, c'est ça, quoi, finalement. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même, on vit quand même des moments passionnants en tant que chrétien. Parce que nous, on connaît la vérité.
On ne peut pas dire, c'est moi qui dis. Il faut lire la Bible, c'est Dieu qui dit. Hein, le pape et tous ceux-là, ils prônent, il faut obéir, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais c'est eux qui disent. Ils disent pas, Dieu a dit, voilà les versets qui disent, maintenant il faut obéir à Dieu. Bon, c'est lui-même qui dit ou...
D'ailleurs, le pape, ça me fait penser, j'en sais rien, mais il me semble qu'il ne parle pas forcément beaucoup du retour du Seigneur. Je disais, d'ailleurs, je peux pas être assuré de la chose, mais le pape aborde peu le retour de Jésus. Hein? Il y a peu cette notion du royaume et tout.
Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques pratiquants et convaincus qui remettent en doute le pape actuel par ses prises de position au niveau du monde. Je ne veux pas donner d'exemple précis, mais j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps.
Mais ce qui est alarmant dans l'histoire, c'est que tous les partis politiques vont dans cette tendance. Ils acceptent les homosexuels, ils acceptent tout ce genre de vie qui est complètement... C'est qu'ils sont d'accord. Et ils veulent même le rentrer dans les lois. C'est ça. Les considérer comme si c'était des gens normaux. Le danger, il est là.
Mais on dit aussi que la politique, il y a bientôt plus de gauche et de droite. Parce que ceux qui sont à droite et qui vont entrer dans cette pensée unique, c'est des gens de gauche, mais qui font partie des élites. Qui gouvernent le monde, mais ils s'accommodent d'être dans cette situation-là. Donc il y aura plus de partis politiques, c'est un petit peu du miroir aux alouettes.
Mais quand on voit ici en Suisse, récemment, je ne sais pas si vous avez vu la presse ou à la télévision, ils ont bien parlé que le Conseil fédéral, ils rentrent dans leur optique, dans leur lignée. Il faut tout à fait reconnaître le mariage pour tous. Il faut reconnaître même les adoptions des enfants. Il faut tout reconnaître. Donc, et ça vient du palais fédéral. Donc, c'est là que ça... Mais c'est ceux qui gouvernent la Suisse.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est l'inauguration de Gotha. Moi, j'étais effaré parce qu'on en a... Moi, je n'ai jamais vu qu'ils avaient
fait... Ah, le spectacle.
Le spectacle. Tu l'avais vu, toi?
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait...
Mais c'est absolument satanique.
C'est tout à fait. Il y avait un qui représentait un bouquetin, mais on aurait plutôt dit le diable, oui.
Le diable, probablement. Il criait, il hurlait.
Ouais, comme s'il était possédé,
les gens autour. Ils les satanistes de leur église qui est reconnue comme une église.
Et c'était agréé parce qu'on parle des autorités.
Par la Confédération.
Par la Confédération et Doris Leuthart. Et qui s'était mis encore en costume, qui était dans le même costume que ces trucs diaboliques, vraiment diaboliques.
Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est très étonnant. C'est vrai qu'il y avait même dans le tunnel aussi une autre cérémonie où il y avait un ange qui passait comme ça, sous le des câbles. Et puis c'était un peu un on savait pas si c'était un homme ou une femme.
Oui.
À seins nus, hein. Vraiment un truc comme ça, quoi. Hein. Et qui est là, qui est censé représenter un membre officiel de la Confédération. Voilà, on vient on inaugure le plus grand tunnel routier au monde, et puis on part dans des folies pareilles. Hein. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Hein.
Alors c'est du lavage de cerveau qui font que tout le monde doit maintenant penser comme eux.
Exactement, c'est la pensée unique.
Et c'est le politiquement
correct. Mais nous, on doit être incorrect politiquement.
Voilà.
C'est vrai que je pense que ça n'a pas choqué grand monde, cette inauguration, alors que... Puis beaucoup de personnes, peut-être, qui n'ont pas cette sensibilité spirituelle, ne comprennent même pas ce qu'il y a en arrière-plan.
Oui,
parce qu'ils disent, le joli bouquetin qui se promène, qui est perdu dans la montagne, tu parles.
Et d'un autre côté, on voit l'œuvre de Dieu qui est extraordinaire, alors le côté positif, quand on voit, par exemple, à Hong Kong, dans ces 2 millions de personnes où ils chantaient « Chante Alléluia Seigneur, au Seigneur », c'est quand même extraordinaire. Tu vois quand même la balance. Hein, enfin, voilà.
Non, mais on est tout à fait dans ce thème, hein, parce que si je vous lis le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ici, cette prophétie, je vous avais déjà parlé sur ce sujet, mais les prophéties, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, elles peuvent passer d'une époque à une autre, comme ça, crac-boum, sans rien vous dire de plus. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ce jour-là, on peut penser à l'enlèvement de l'Église, hein, où les gens, tout d'un coup, hop, ce sera fait. Parce que quand Jésus reviendra... pour régner sur cette terre, il viendra pas comme un voleur. Les gens qui connaîtront la Bible, ils seront exactement dans la chronologie où ils en seront. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, Et puis, tout de suite, après la suite, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Cette deuxième partie du verset nous projette à la fin du millénium. Dans ce verset-là, entre guillemets, c'est comme si le millénium est caché. On passe d'une époque à une autre. Et c'est ce qui est difficile dans les prophéties, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est qu'on passe d'un temps à l'autre. Et moi, je me rappelle, à Jeunesse en Mission, nous avait donné un enseignement là-dessus, je pense que je l'avais déjà partagé, qui nous disait, c'est que le prophète, il voit un horizon lointain, comme ça, et puis il voit au loin une colline, et puis plus en arrière la montagne, il vous décrit la colline, il vous décrit la montagne, comme les deux éléments qu'on a là. La colline, ce serait la venue du Seigneur comme un voleur. La montagne, tout ce que Dieu va détruire après la fin du millénium. Mais ce qui est entre deux, il ne le voit pas. Donc, il ne le décrit pas. Et c'est ce qui est parfois difficile aujourd'hui dans les prophéties, c'est de comprendre dans quelle époque on est. Et c'est difficile, pourquoi? Parce que des fois, on entend beaucoup de faux enseignements par rapport à aujourd'hui. En disant, l'Église, elle en est là aujourd'hui, youpi, allons-y, en avant, merci Seigneur. Alors que ces prophéties, elles ne sont pas pour l'Église aujourd'hui. Ou de la même manière par rapport à Israël, de la même manière aujourd'hui, on dit, ces prophéties sont accomplies pour Israël. Et puis quand vous prenez le temps d'étudier un peu le passage biblique, vous voyez, non, ce n'est pas pour maintenant, c'est des promesses pour plus tard. Parce que clairement, le texte nous parle du temps du millénium. C'est aujourd'hui, malheureusement, on a certaines doctrines par rapport à Israël qui sont pas bien fondées, parce qu'on va prendre les versets comme ça, on les sort du contexte, et puis on dit c'est pour Israël, c'est pour Israël aujourd'hui. Il y a un manque d'études des prophéties et de simplement prendre du temps. Et de demander aussi que le Seigneur nous inspire et qu'on comprenne ces différentes époques de façon à ce qu'on n'ait pas faire de vaines promesses aux gens en disant c'est pour aujourd'hui pour l'Église, on y va, alléluia, Dieu sera avec nous et puis il y a aucun souci, le Seigneur va agir, ou bien par rapport à Israël la même chose. C'est pour aujourd'hui, c'est l'heure du rétablissement ou que sais-je. Ce sera tout autre chose quand Jésus-Christ sera sur cette terre. On vivra le véritable rétablissement d'Israël, qui sera complètement différent de ce que vit aujourd'hui Israël. Prenons le temps d'étudier. Prenons le temps aussi de peut-être d'ouvrir nos Bibles avec des notes bibliques, parce que des fois il y a des gens qui ont étudié en profondeur ces textes et puis tout à coup on n'aura pas forcément réponse sur tout. Peut-être des fois on peut se tromper, on est humain, qu'on demande vraiment aussi au Seigneur de la sagesse par rapport à ces thèmes.
Concernant le verset 10 que tu viens de lire maintenant, il pourrait avoir différentes interprétations. On vient de voir ici une interprétation sur le jour où le Seigneur viendra comme un voleur, et on vient de lire comment ça terminera. Mais il y a un autre passage où il dit que quand le Seigneur reviendra sur la terre, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers et tout œil le verra. Alors, comment on peut interpréter sur le mont des Oliviers et tout le monde le verra? Peut-être à cause des caméras de télévision, j'en sais rien quoi, tout œil le verra. Et puis tout d'un coup, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et puis les cieux et la terre vont se détruire. Comment il faut interpréter ces deux?
Ça, c'est une bonne question.
Mais c'est tout différent. C'est le Seigneur, il vient deux fois. Première fois, il vient chercher l'Église. Il viendra comme un voleur parce qu'il va nous prendre, nous, et puis les autres vont rester. La deuxième fois, il vient, comme tu dis,
en gloire. Au monde de gloire. Et tout le monde verra.
Pour juger la terre.
Donc il n'y aura aucun chrétien. Au moment où il reviendra, il n'y aura plus de chrétiens puisqu'ils auront été enlevés.
Ah non, il y en aura encore. Aussi. parce qu'il y aura de l'évangélisation qui se fera entre le moment où l'Église est montée au ciel et le moment où il reviendra. Il y a ceux qui auront entendu la Bible, mais qui seront incrédules. Eh bien, ces gens-là, ils vont se poser des questions. Mais dis donc, mais comment ça se fait? Ils ont disparu. Mais c'est ce qu'on avait entendu. Alors, c'est Dieu qui est venu chercher son Église par Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, ça va les travailler. Et puis, ceux-là, ils vont encore subir la bête qui va les attaquer, les mettre en prison, les faire mourir et tout cela.
Mais ça, c'est en deux temps, on est bien d'accord.
Voilà.
Il y a l'enlèvement de l'Église, et après le retour où tout œil le verra. Et puis là, quand il reviendra, tout sera détruit par le feu.
Ça,
c'est encore une autre... Mais tu sais, c'est facile à dire, c'est après, c'est avant, c'est entre deux,
c'est au milieu.
Mais c'est facile de partir dans, dans ce genre de développement.
Regarde,
pour situer tout ça, il faut bien analyser pour qu'on puisse comprendre.
Essaye de te mettre à la place des apôtres. Jésus, il les a enseignés. Combien de fois il leur a dit que il sera arrêté, il sera martyrisé, il va mourir, et puis après, trois jours après, il ressuscitera. Et il leur a expliqué tout ça. Les temps viendront, et puis maintenant le temps vient. Les disciples, ils n'arrivaient pas à saisir. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, il faut vraiment, ce qu'on étudie, ce qu'on lit, demander, Seigneur, par ton Saint-Esprit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce que tu veux me dire, afin qu'on puisse digérer ça et puis se réjouir des choses merveilleuses.
Parce que humainement parlant, tu es d'accord, ça peut prêter à confusion. Je parle humainement parlant. S'il n'y a pas une intervention divine par le Saint-Esprit, c'est la natation, un peu, à un moment donné.
Mais voilà, on essaye, nous, de...
De discerner.
De discerner par le Saint-Esprit.
Voilà, d'accord. Discerner par l'aide du Seigneur. Je pense.
C'est des textes où il faut être quelque part comme Noé, il faut avoir la foi. Dieu s'est révélé à lui. Il a construit cette arche parce qu'il a dû avoir une visitation du Seigneur forte, je pense. Nous, ça doit être la même chose au travers des écrits. Dieu doit nous parler aussi au travers de sa parole. Et puis, par la foi, on doit saisir ces textes aussi. Il restait avec une ferme assurance que ce que le Seigneur a promis de faire, il va l'accomplir, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais c'est vrai qu'on doit, on se projette dans un avenir. Alors pour moi qui est proche, moi je pense qu'il est proche, ce retour du Seigneur, bien sûr on ne peut pas donner de date, mais pour moi il est proche. Peut-être que je me trompe complètement.
C'est déjà marqué ici, le Seigneur est proche.
Voilà.
Et déjà, les apôtres,
c'est ça. Ils avaient déjà ça.
C'est ça. En effet, une église, une vraie, une Maranatha, viens Seigneur, viens, hein, comme on connaît. Une vraie église, elle est dans l'attente du retour du Seigneur, dans son cœur. Que ce soit pour demain, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans. Elle est dans cette attente-là. Les premiers chrétiens étaient dans cette attente-là.
Et tu peux les faire en attendant.
Voilà.
Et pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour pour lui. Donc nous, on n'est pas dans ce temps-là. On est des petits humains qui vivront un certain nombre d'années, mais très très courtes, par rapport à Dieu qui...
Mais je pense que cette perspective, on l'a quelque part, alors pas bien sûr au niveau du Seigneur, mais parce qu'on est conscient que notre vie n'est qu'un passage. Anna, qui est notre sœur aînée, je pense qu'elle est encore plus consciente que nous combien la vie est courte. Tout d'un coup, on a déjà fait un grand parcours.
Et puis on a
l'impression qu'on a à peine commencé de vivre.
On vient de finir l'école, et puis on arrive déjà.
Et puis on nous met déjà sur le banc des retraités. Puis longtemps en plus. C'est ça, tout d'un coup, les années sont passées. Mais nous, on a cette perspective de la suite.
C'est comme de faire des pronostics pour dire le Seigneur revient. Quand il y a eu la guerre de 14, par exemple, il y avait des chrétiens qui montaient sur la montagne. Ils étaient sûrs que le Seigneur allait venir les chercher à ce moment-là.
Ils pensaient que sur la montagne, ils avaient prié avant ou bien
Ouais, je sais pas, mais toujours est-il qu'il y a eu, plein de choses comme ça.
L'an 2000 aussi.
Ah oui, l'an 2000
aussi. Ou des chrétiens, bien pensants.
Oui, il y a partout des chefs spirituels.
Voilà, hein, qui donnaient des...
Des annonces, une date.
C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur des dates.
Personne ne sait.
Ben oui, justement.
Il
n'y
a, que Dieu qui sait.
Même Jésus ne le savait pas à ce moment-là, parce qu'il était homme encore. Ouais. Même qu'il était Dieu. Ouais. À ce moment-là, il ne le savait pas.
C'est Dieu
qui est... Maintenant, il est auprès de Dieu, oui, mais... Il ne faut pas l'oublier, il y a des choses que Dieu n'y avait pas révélées.
Ça nous montre qu'on n'est pas appelé à le savoir.
Non.
On n'est pas appelé à le savoir. Par contre, on le sait intérieurement que Jésus va revenir, mais on ne connaît pas la date et on n'a pas à la connaître. En attendant, on doit avoir le souci déjà de notre marche avec le Seigneur, et puis le souci aussi du salut des gens qui nous entourent, et de croire qu'il y a encore des gens qui vont venir à Dieu, qui vont venir à la repentance, qui vont entendre l'Évangile, qui vont être touchés par la puissance du Seigneur. Et voilà, si Dieu nous permet de vivre l'Église, c'est dans ce but-là. Autrement, il serait déjà venu nous rechercher. S'il n'y a pas encore quelque part une petite brebis perdue là, que Dieu veut nous utiliser pour ça, ben, il serait déjà venu nous chercher.
On doit attendre que cette brebis soit au berceau.
Voilà, s'il n'y en a plus qu'une, qu'à la part.
Ah, c'est embêtant.
Il faut vraiment qu'on la retrouve. Hein.
Non, mais il dit bien quand même, dans un passage biblique, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi. Donc s'il pose cette question, ce n'est pas par hasard.
Bien sûr.
On est bien d'accord. Parce que comment on voit que la foi se refroidit à une vitesse phénoménale, autrement il n'aurait pas dit ça.
Donc, mais c'est aussi un avertissement pour nous qui sommes dans la foi.
De persévérer.
De ne pas tomber par le fait.
C'est un rappel.
Par la persécution.
Oh, c'est un des rappel. Comme ça.
Attention.
Pour ce terme de foi, est-ce que c'est la foi en général ou bien c'est vraiment la foi en Jésus qui est mentionnée là? Parce qu'il y a cette foi globale, générale, comme les mots de foi en quelque chose, ou bien la foi en Jésus-Christ, laquelle est mentionnée là?
Ah ben je pense, vu Jésus qui dit est-ce que je retrouverai la foi en revenant, c'est par rapport à lui.
Par rapport à lui. Puisque lui est venu pour sauver l'humanité, tout être humain, on est bien d'accord. Donc la foi en lui.
Mais c'est parfois utilisé par des personnes pas forcément chrétiennes qui disent il faut avoir la foi.
New Age. Ouais. Les gens du New Age, ils vont vous faire un enseignement sur la foi, sur la confiance et tout. Ils vont utiliser même le mot foi. Mais derrière, il y a quoi? C'est pas la foi en Jésus-Christ, c'est sûr.
Et dire aussi qu'il a prêché pendant 120 ans, et il n'y a que sa famille qui est entre.
Noé, en effet.
Oui, qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce que les fils pensaient de leur papa?
Ils ont obéi.
Par la foi ou bien ils ont simplement obéi?
Peut-être qu'ils ont peut-être aidé à la construction, non?
Ah oui, ils ont travaillé, ils aidaient leur papa. Mais seulement, dans quel sens? Ils avaient la même foi que leur père ou bien ils devaient obéir à leur père?
Parce qu'il y avait
on dit, bon, mon papa, il est bizarre, mais ma foi, on obéit.
Le père, c'était le patriarche.
On ne sait pas, ce n'est pas marqué dans la Bible.
Noé le huitième, ça veut dire que c'était le huitième entrée dans l'arche. 8 ont été sauvés. Donc, je n'ai pas forcément la réponse, mais bonne question. Mais je pense quand même que ceux qui sont rentrés dans l'arche, ils avaient la foi. Parce qu'autrement, Dieu les aurait détruits. Parce que le déluge était un jugement de Dieu sur le péché de l'humanité. Donc, je pense que les membres de sa famille ont aussi trouvé grâce devant Dieu. Suite aussi à la prédication de leur patriarche.
Et puis, ce qui est formidable, c'est que c'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que dès que le déluge est arrivé, c'est-à-dire les cieux ont commencé à pleuvoir, à danser de l'eau, les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Ils ont commencé d'avoir peur parce qu'il n'y avait pas la pluie à ce moment-là.
Oui, mais là, ils ont réalisé, mais oui, Noé l'avait dit.
Mais oui, alors maintenant, ils veulent y aller, mais Dieu a fermé la porte.
Et c'est pas Noé.
Quand on voit, mais j'extrapole un peu, dans Bresson, par exemple, les gens, mais toute la première chose qu'ils disent, c'était le déluge.
Mm-hmm. Oui.
Et puis c'est complètement fou parce qu'on voit que la force de la nature qui sur un seul petit endroit arrive à disséminer je ne sais pas combien de maisons, de dévaster combien de... et de tuer des personnes. Il y a une personne
qui est décédée.
Et quand tu vois ces voitures qui flottent dans l'eau comme ça, puis qui vont à une vitesse pas possible.
Mais oui, c'est ce garçon qui est sorti du bus pour aller à la maison, il voulait aller et tout à coup... Il a dû nager.
C'est le chauffeur du bus qui lui a dit qu'il faut sortir parce que le bus s'est bloqué.
On peut pas aller
il ne pouvait plus avancer. Alors le chauffeur a dit aux gens, aux garçons, il faut descendre, il faut aller vite chez vous. Mais alors malheureusement, lui, il a marché sur la route. Il y avait de l'eau sur la route, ça coulait fort. Mais sa maison était un peu en contrebas. Et c'est là qu'il a été pris par le courant d'eau. Et puis il s'est accroché à la maison et puis c'est quelqu'un qui lui a dit « Non, non, il faut faire le tour par derrière. » C'est plus haut derrière. Il est monté derrière et c'est comme ça qu'il est sorti de l'eau. Sans ça, il a dit « Moi, je serais
mort. » Il a dit « Il a dû nager. » Tout à coup, il a vu des voitures passer et des troncs d'arbres. Mais il a dû nager.
Heureusement qu'il savait nager.
Après,
c'est étonnant.
Il avait quel âge?
16 ans. Il avait
16 ans.
Oui,
il aurait peut-être pas.
Oui, parce que c'était assez tard le soir, tu vois, quand il est rentré. Mais ça, vraiment, dans un village, il a dû nager, il a vu passer des voitures et des arbres. Mais quelle horreur! Alors il a tremblé, il a sonné à toutes les portes. Et quelqu'un lui a ouvert, alors il a demandé, je vais enlever ses chaussures pour ne pas salir.
Il est formidable, garçon. On lui ouvre la porte de la maison, il dit, je vais vite enlever mes chaussures pour amener la boue dans la maison. Alors là, chapeau.
On peut se demander si c'est pas des fois, pour certaines personnes, ça peut pas aussi les travailler dans le sens que Dieu exerce des fois.
Il va pas oublier ça, je pense.
Il a un nom de
biblique
des islam.
C'est un musulman.
C'est un turc ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était dans le journal.
Alors, ce qu'on voit, c'est que ces faux enseignants que dénonce là notre frère, entre guillemets, Pierre, nient justement qu'il y a eu un déluge. Et de cette même manière, qui nie le déluge, il nie aussi le jugement à venir sur cette terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement aussi, on trouve des gens qui remettent en question le déluge. Ça peut, sur un plan humain, c'est vrai qu'on peut se dire, oh là, c'est quand même un événement, on a un peu de la peine à y croire. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Moi, je ne suis pas un spécialiste alors sur le thème du déluge. Mais scientifiquement, vous vous rappelez quand on avait Pierre Hamet aussi qui était venu, qui nous expliquait aussi un peu. Les quantités d'eau, maintenant je ne me rappelle plus le pourcentage, les quantités d'eau souterraine de la Terre, c'était un géologue, qui pas chrétien, qui avait dit ça, qui était spécialiste dans le forage en Afrique pour des puits d'eau. Je crois que les eaux de surface représentent que le 10% des eaux souterraines. C'est un pourcentage énorme. Je crois que c'était 10%.
Mais la mer inclue alors?
Oui, tous les océans, tous les lacs, tout ce que tu veux, la petite rivière
qui coulait. Toute la mer, c'est que 10% de toute l'eau.
Les eaux de surface ne sont que le 10% des eaux souterraines. Donc, il y a des réserves d'eau énormes. Et puis, la Bible, c'est ce qu'elle déclare en Genèse, c'est que la terre s'est ouverte, l'eau a jailli d'en bas aussi.
Exact. Ils ont fait un film, je dirais. Ils ont fait un film sur Noé comme ça.
C'est pas seulement qu'il n'y a plus, c'est que l'eau est sortie.
L'eau est sortie. Pas que la pluie, elle est sortie de terre, l'eau. Et dans ce film qu'ils ont montré sur Noé, et ils ont bien, je ne sais pas comment ils truquent pour faire ça, on voyait dans ce film l'eau sortir, mais en abondance de la terre, en dehors du déluge proprement dit, donc la pluie. Et des quantités phénoménales d'eau.
Donc, ce qui est en eau souterraine, il y a de quoi submerger tout ce qui est de la surface de la terre. Et puis aussi, peut-être vous avez déjà entendu parler, mais il y a plusieurs récits de déluge de par le monde, dans plein de cultures différentes. Il y a des récits de déluge. Donc voilà, moi je n'ai pas de souci avec ça. Mais bon, alors quelqu'un peut remettre ça en question, c'est peut-être pas trop grave. Mais quand même, attention, parce que après, ça veut dire qu'on remet en question la parole du Seigneur. Et puis après, ben, puisqu'on ne croit pas au déluge, parce que scientifiquement, c'est complètement impossible, ben, alors après, bien sûr, ce qui va suivre, c'est qu'on ne va pas croire aussi au retour du Seigneur. Il y a toute une... Quand on commence à remettre en question l'autorité de la parole du Seigneur au nom de soi-disant pseudo-preuves scientifiques, mais qui n'en sont pas, on inverse la priorité des choses. C'est la Bible qui doit avoir autorité sur tout, et puis c'est pas la science qui doit nous expliquer la Bible, hein. Je sais pas si j'étais clair.
Oui, mais moi j'avais lu un article d'un scientifique, mais ça il y a longtemps, quand j'étais jeune. Ils ont fait des recherches à un certain endroit sur la Terre, à une place, je ne sais pas où, bah c'est trop vieux, j'ai oublié. Mais on voyait bien, ils ont expliqué que c'est dans l'écorce terrestre, à une certaine place, on voit bien qu'il y a eu un temps où il y a eu beaucoup d'eau. Alors, voilà, quoi. Ceux-là, ils disaient, oui, ça, c'est la preuve du déluge.
Mais je crois qu'il y a autant de scientifiques ne faire qu'on ne croit pas au déluge, autant de scientifiques qui prouvent ou qui essayent de prouver le déluge. Donc, je pense qu'il n'y a pas uniquement le côté. On a aussi des chrétiens scientifiques qui veulent expliquer ça. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut vraiment attendre que le Seigneur nous dirige par le Saint-Esprit dans sa parole.
Voilà, on marche par la foi, hein. C'est ça. Pas par des oui-dire. Voilà.
Amen. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là, et puis je pense qu'on pourra terminer la prochaine fois. Ensuite, on devrait commencer l'épître aux Romains. On était parti un petit peu dans cette idée suite à une discussion conseil. Donc... là, il faudra attacher vos ceintures. Oui. Non, simplement, c'est une épître assez complète, donc ça va prendre aussi du temps. Mais je trouve que c'est des parcours très enrichissants. Et, voilà. Donc, on pourrait finir encore avec un chant. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut finir avec la prière, c'est volontiers.